Le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous débuterons évidemment ce journal avec une rentrée des classes particulières ce matin en raison du contexte sanitaire tout d'abord, mais aussi sécuritaire. Nous nous rendrons dans un collège parisien où il y a un peu plus d'une heure maintenant et comme dans la plupart des établissements a été observé une minute de silence en hommage à Samuel Paty.
L'invité de la rédaction aujourd'hui.
Dans une dizaine de minutes, nous recevrons Alex Albert, enseignant-chercheur en sociologie à l'université de Tours, l'un des trois co-auteurs d'une enquête sociologique intitulée « Impossible travail de déradicalisation » publiée aux éditions RS.
On dit que le gouvernement multiplie les messages de fermeté sur les contours du nouveau confinement. Le Premier ministre Jean Castex a exclu hier soir toute nouvelle dérogation pour les petits commerces.
Oui, de quoi alimenter en particulier, on le verra, la colère des maires. À l'étranger, nous nous rendrons tout d'abord en Côte d'Ivoire où le président Alassane Ouattara devrait sans surprise être réélu pour un troisième mandat controversé. Et puis, nous suivrons également avec nos envoyés spéciaux les derniers instants de la campagne américaine. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Avec Vincent Payon, le philosophe et ancien ministre de l'Éducation nationale, qui nous a déjà rejoint dans ce studio. Bonjour monsieur, merci à vous d'être avec nous et qui sera aussi l'invité fil conducteur de votre journal à l'occasion de la sortie de son essai de philosophie politique, l'émancipation. Avec lui, nous reviendrons dans la grande table et notre deuxième invité avec Dominique Schnapper sur la laïcité à l'école. Faut-il la repenser, la refonder? Ce sera le sujet de la deuxième partie de la grande table.
De retour au travail ou à l'école, les Français sont donc entrés ce matin dans le vif de leur nouveau quotidien de reconfinement allégé avec notamment une rentrée très particulière pour plus de 12 millions d'élèves. C'est en effet la grande nouveauté de ce reconfinement. Contrairement au printemps dernier, les écoles, collèges et lycées restent ouverts mais soumis à un protocole renforcé. Outre des limitations de déplacement à la cantine ou dans la cour de récréation, le port du masque sera désormais obligatoire pour les élèves dès 6 ans. Vigilance sanitaire oblige. Mais si cette rentrée ce matin semblait si particulière, c'est aussi parce qu'elle aura été marquée par l'hommage rendu à Samuel Paty, ce professeur assassiné à la veille des vacances de la Toussaint pour avoir montré des caricatures de Mahomet dans un cours sur la liberté d'expression. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Vous vous trouvez actuellement au collège Lagrange-Aubel dans le 10e arrondissement de Paris où à 11h, comme dans la plupart des établissements scolaires, Hakim a été observé une minute de silence précédée d'une séquence pédagogique.
Des organisations musulmanes l'attaquent en justice, estimant que ces dessins portent atteinte à leur liberté de religion en ne respectant pas leurs croyances.
Le texte que vous entendez est en fait issu d'un jugement du tribunal de grande instance après une plainte déposée par des associations musulmanes contre Charlie Hebdo en 2007. Quoi de mieux pour travailler les notions de démocratie, de laïcité ou encore de blasphème, comme nous explique Paul Herriot, professeur d'histoire-géographie.
Alors ce texte, plus qu'un autre, parce que c'est un des jugements qui est le plus précis dont nous disposions actuellement, sur l'équilibre entre liberté d'expression et respect des croyances. Donc c'est un texte qui me paraissait, en le retravaillant, équilibré et permettant de faire passer ce que je voulais passer.
Une minute de silence pleine d'émotions, notamment chez les enseignants. Et vous allez l'entendre, les avis divergent du côté des élèves sur la teneur qu'il fallait donner à la cérémonie en hommage à Samuel Paty.
C'est vrai que quand on touche comme ça à une profession, et c'est sûr que ça peut toujours toucher ceux qui travaillent dans la même profession. Je pense surtout que voilà, ça peut toucher tout le monde, surtout que c'est un sujet qui peut être abordé par les professeurs. Parler de ce qui s'était passé surtout, donc ce qu'on a pensé, comment on a vécu ça, etc.
Enfin moi personnellement, j'en vois pas l'utilité. Enfin certes c'est quelque chose de grave, mais il y a plein de gens qui meurent. Enfin voilà quoi, genre, et on fait pas forcément ça à tout le monde.
Après l'hommage, les élèves ont retrouvé le chemin des cours. À noter qu'ici, il n'y a eu aucun incident à signaler durant la cérémonie d'hommage à Samuel Paty.
Merci Hakim Kasmi en direct du collège de la Lagrange-Aubel dans le 10e arrondissement de Paris ainsi qu'à Martin Troadec. Pour les moyens techniques, Vincent Payon, bonjour monsieur.
Bonjour.
Ancien ministre de l'Éducation, vous êtes l'invité de la grande table des idées d'Olivia Gesbert. Je profite de votre présence en studio avec nous. Sortir du confort, de l'indifférence, se cogner aussi à ses propres limites, c'est a priori le but de toute éducation, sauf que les événements de ces derniers jours ont jeté une lumière crue sur cette liberté aujourd'hui de dire, de montrer les choses. On sait que ce matin, cette minute de silence aura parfois, on vient de l'entendre, être précédée d'un temps pédagogique en classe, mais pas toujours. Le ministère a finalement préféré laisser aux professeurs qu'il souhaitait le temps nécessaire pour préparer cette séquence en tant qu'ancien ministre de l'Éducation. Quel discours aurait-il fallu, selon vous, tenir aux élèves ce matin et qu'est-ce que cela dit aussi de la place de la communauté éducative?
Vous savez, ce matin, c'est un moment d'émotion, de commémoration. C'est une rentrée massive, les gens l'oublient souvent, c'est 12 millions d'élèves. C'est près d'un million de professeurs. Je crois, on l'a vu, il y a eu cette histoire sur la lettre aux instituteurs de Jaurès, que les uns et les autres ont cherché la bonne façon de partager ce moment, d'en faire aussi un moment de réflexion. Bon. Je crois que les professeurs connaissent leurs établissements, ils connaissent leurs élèves, ils sont différents les uns des autres. Un acte pédagogique, pour être valable, il doit partir d'abord de ce que sont les élèves. Si vous venez plaquer des choses toutes faites, et beaucoup de discours de l'extérieur, faut bien le dire, qui voudraient maintenant légiférer l'école depuis d'autres endroits. Généralement, vous n'arrivez pas à ce que vous voulez faire. Et donc, je crois que ce matin, j'imagine, on a entendu d'ailleurs un professeur à l'instant dans votre journal, qui commentait un arrêt de façon absolument remarquable. Il est allé chercher son matériel pédagogique. Je crois qu'il fallait ce temps de recueillement. Et il fallait laisser ce qu'on appelle les libertés pédagogiques aux professeurs, aux établissements, le soin de trouver les meilleures façons de toucher les consciences, les raisons, peut-être même les âmes, et de faire réfléchir les élèves. Mais ce qui serait terrible, j'avais fait, vous savez, la charte de la laïcité en 2012, et qui est quand même un peu ce qui se passe aujourd'hui, en permanence, et je constate d'ailleurs souvent une très grande ignorance de ce qui se fait à l'école, et qui est remarquable, c'était le cas de Samuel Paty. C'est que on parle de ça parce que il y a eu cet horrible assassinat, et puis que le lendemain on passe à autre chose, et qu'on ne comprenne pas que le temps de l'école, le temps de l'éducation, le temps de la conscience, le temps du savoir, c'est un temps long. Et c'est un temps qui ne peut pas être soumis en permanence, pas aux pressions des intégristes, mais pas non plus à toutes les autres pressions, du temps politique, du temps émotif, du temps polémique, du temps commercial. Refonder l'école républicaine et autour, évidemment, de la laïcité, ça suppose un travail de longue haleine, pas un jour, pas simplement une leçon, pas une classe, pas un instant, mais un travail dans la durée. La laïcité, vous savez, c'est pas un programme en soi. La charte de la laïcité, elle doit être mise partout. C'est quelque chose qui doit nous conduire à réfléchir tous les jours. Les élèves, et sans doute pas seulement les élèves.
Merci Vincent Payon. Je rappelle que vous serez donc l'invité de la grande table des idées avec vous, Olivia Gesbert, dans une vingtaine de minutes.
En discussion avec la sociologue Dominique Schnapper. La suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Alors, comment enseigner aujourd'hui la liberté d'expression? Nombreux sont ceux à parfois sembler reculer. Aujourd'hui, ce matin même, l'ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry, a déclaré, je cite, « On n'est pas obligé de montrer des caricatures qui sont à la limite de la pornographie, qui sont quand même ignoble. L'actuel ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait lui assuré quelques jours plus tôt défendre les caricatures, mais tout en reconnaissant ne pas les aimer. Et puis vendredi dernier encore, l'archevêque de Toulouse, Mgr Robert Le Gall, allait même jusqu'à se prononcer contre la liberté de blasphémer. De son côté, dans une interview diffusée ce week-end par la chaîne de télévision Al Jazeera, le président Emmanuel Macron a de nouveau défendu sa conception de la laïcité, tout en regrettant toutefois des malentendus. Le chef de l'État a déploré que ses propos aient pu être déformés dans le monde arabe, réfutant notamment avoir dit soutenir les caricatures humiliant le prophète. Il faut dire que cette question continue de tendre les tensions entre Paris et plusieurs pays musulmans, en premier rang desquels l'Indonésie et la Turquie, sauf que dans ce concert de protestations anti-françaises, eh bien, il est un pays qui, au contraire, a choisi de prendre la défense du président français. Il s'agit des Émirats Arabes Unis. Alors, pour quelles raisons? Élément de réponse avec Christian Chénaud.
En ce moment, la France et les Émirats Arabes Unis vivent une véritable lune de miel. Mohamed Ben Zayed, dit MBZ, est devenu, pour Emmanuel Macron, son principal partenaire stratégique dans le Golfe Persique et bien au-delà, notamment dans la crise libyenne. Ses prédécesseurs à l'Élysée, Nicolas Sarkozy, s'étaient entichés du Qatar et François Hollande avait parié sur l'Arabie Saoudite. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, tout concourt à rapprocher Paris et Abu Dhabi, notamment une obsession partagée contre la Turquie d'Erdogan qui pousse ses pions en Méditerranée et qui se veut le porte-parole de l'islam politique, un sujet crucial sur lequel les deux pays sont sur la même longueur d'onde. Dans le monde arabe, les Émirats sont les adversaires les plus farouches des islamistes. Ils considèrent que la religion doit rester cantonné dans les mosquées et ne pas déborder sur le terrain politique. Et puis, il y a entre Paris et Abu Dhabi une coopération bilatérale très dense et multiforme, unique dans la région avec un volet militaire structurant. La France dispose d'une base aéronavale aux Émirats et si ces derniers n'ont pas acheté de Rafale, Ils ont en revanche signé un contrat de modernisation de leur flotte de Mirage. Les Émirats accueillent aussi le Louvre et la Sorbonne à Abu Dhabi. Enfin, dans la corbeille des relations bilatérales, il ne faut pas oublier deux fonds d'investissement croisés, l'un consacré aux grandes sociétés, l'autre aux PME spécialisées dans les nouvelles technologies.
France Culture, il est midi 41. L'invité de la rédaction tout de suite, Alex Albert.
Oui, maître de conférence à l'université de Tours, co-auteur avec Valérie Cohen et Joël Caballion d'une enquête sociologique intitulée « Impossible travail de déradicalisation » publiée aux éditions RS. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour.
Alors cette enquête porte sur l'expérience, c'était en 2016 et 2017, du premier centre de déradicalisation au château de Pontourny en Indre-et-Loire. Un programme destiné à de jeunes volontaires, pas encore condamnés par la justice. Programme qui a finalement dû s'arrêter au bout de 11 mois. Nous verrons évidemment quels enseignements en tirer. Une première remarque, monsieur Albert, on ne parle plus tant aujourd'hui de déradicalisation que de désengagement de la violence. Et votre enquête montre d'ailleurs que ce concept de déradicalisation n'est pas opérant.
Alors, est-ce que c'est le concept qui n'est pas opérant ou est-ce que c'est les politiques qui ont été mises en place pour le réaliser qui le sont? C'est pas évident. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne parle plus de déradicalisation. On a cessé d'en parler avec la fermeture du centre. Hein. L'échec du projet a été le coup d'arrêt de cette politique. Un rapport sénatorial d'Esther Benbassa et Catherine Trundley a été extrêmement critique sur le sujet, en s'appuyant notamment sur l'échec du centre. Donc oui, le terme n'est plus usité parce qu'il était trop imprécis, mais on peut poser cette question finalement aussi au sujet de la radicalisation elle-même, ce concept qu'on emploie par commodité, mais qui recoupe des réalités très hétérogènes et qui, parfois, pose problème lorsqu'il s'agit d'agir pour définir une politique.
Question de Anne Fauquemberg.
Alors, votre enquête, Alex Albert, elle porte sur le Centre de Prévention et d'Insertion à la Citoyenneté de Pontourny, le CPIC, qu'on a appelé Centre de Déradicalisation par commodité, et qui devait servir de modèle à d'autres centres en France. Initiative du gouvernement Valls après les attentats de 2015, ça n'a donc pas fonctionné. Très vite, c'est ce que vous montrez, s'est installé un conflit de travail entre, d'un côté, les tenants d'un programme martial, et de l'autre, les éducateurs spécialisés. Dans quels termes s'est posé ce conflit ?
Alors pour le comprendre, il faut sans doute revenir un petit peu sur l'histoire de ce projet qui est très particulière. En fait, le CPIC est créé dans les locaux et avec une partie des personnels d'un ancien établissement de l'aide sociale à l'enfance dépendant du département de Paris et qui devait être fermé pour raisons budgétaires. Donc ces gens ont conservé leur emploi, mais en modifiant radicalement leur, si je peux me permettre, leur conditions de travail, il y avait un noyau de personnel avec une forte expérience du travail social qui a dû en fait se couler dans ce nouveau projet, un projet qui était très inspiré pour la gestion du quotidien, des règles de vie, des centres éducatifs fermés pour une part et des établissements publics d'insertion de la défense d'autre part. C'est-à-dire qu'en fait, le quotidien des jeunes était rythmé par des horaires très précis, des activités intenses et puis tout cela se faisait dans un cadre de socialisation d'inspiration militaire avec le port de l'uniforme à la fois pour les personnels et les jeunes, avec des rites patriotiques le vendredi matin, par exemple le chant de la Marseillaise au lever des couleurs. Et tout ça nous a beaucoup intrigués avec mes collègues Joël Caballion et Valérie Cohen. Effectivement, on a voulu aller voir sur le terrain comment ces salariés expérimentés allaient s'adapter à ce nouveau cadre de travail. Et effectivement, ça induit beaucoup de difficultés. Il y a eu beaucoup de malentendus, d'incompréhensions entre eux et leur nouvelle direction qui tentait d'imposer ce système, ce cadre de travail. Beaucoup de tensions, des réunions houleuses, des démissions en nombre dès les premiers mois. Et puis, on a fait le constat, hein, en enquêtant, qu'en fait, effectivement, tout cela découlait pour bonne part, au-delà des problèmes pratiques nombreux, d'une réelle difficulté entre ces équipes expérimentées et leur nouvelle direction pour s'accorder sur ce qu'il fallait faire avec les jeunes, au quotidien. Les malentendus étaient à la fois éducatifs, c'est-à-dire que on se demandait comment encadrer ces jeunes. Est-ce qu'il fallait leur imposer un cadre strict, la manière forte? Est-ce qu'il fallait imposer le respect scrupuleux des horaires prévus, des activités? Ou alors, est-ce qu'il était pertinent d'assouplir le cadre pour favoriser le dialogue, tisser du lien? Ce que savent faire les personnels éducatifs? Le malentendu, il était aussi pédagogique. Hein, c'est un peu la thématique de la journée. Comment faire pour émanciper ces jeunes qui ont perdu une partie de leur sens critique dans l'idéologie à laquelle ils adhèrent? Est-ce qu'il faut stimuler le débat, quitte à aborder des sujets polémiques avec eux? Ou alors, ligne un peu plus défendue par la hiérarchie, est-ce qu'il faut favoriser un attachement à la France, une forme, c'est ainsi que le percevaient les formateurs, de réembrigadement, en plaçant la France à la fois au centre du programme, mais hors du champ de la critique. Vous voyez, on a été saisi sur le terrain par l'ampleur des désaccords, comme si, quelque part, deux républiques se regardaient en chien de faïence et avaient bien du mal à s'accorder sur ce qu'il fallait entendre par
Alex
cadre
Albert,
et ce qu'il fallait entendre par valeur de la République.
Plus globalement, on sait que les travailleurs sociaux prennent en charge ce qui pose souci dans la société. Sont-ils formés aujourd'hui à la question du rigorisme religieux? Que vous ont-ils partagé, ces travailleurs sociaux?
En quelques mots, s'il vous plaît.
Eh bien, ceux qu'on a étudiés, non, ils étaient assez peu préparés. Ils ont en fait eu quelques formations très rapides, mais ils n'ont pas pu être préparés au rigorisme. Les jeunes voulaient prier, pour prendre un exemple, hein, 5 fois par jour, à heure fixe, mais rien n'était prévu dans le programme pour leur libérer des espaces. Ils étaient autorisés à prier le matin et le soir dans leur chambre, seuls. Et donc, très vite, il y a eu un débat intense dans le centre, puisque les jeunes tenaient à tout prix à prier. Et il a fallu, à un moment donné, recruter un aumônier musulman pour apporter un peu de souplesse, des arguments théologiques, si vous voulez, pour expliquer aux jeunes que les horaires de la prière pouvaient être éventuellement décalés, que c'était pas un péché grave. Et là, ça a mis en lumière un petit peu les limites de l'approche strictement éducative et plaidé pour, peut-être, c'est l'un des résultats de l'enquête, pour une prise en charge religieuse du fait religieux.
Merci Alex Albert, maître de conférence à l'université de Tours, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre de votre enquête sociologique, Impossible travail de déradicalisation, publié aux éditions Erez. Et je précise que vous pouvez dès à présent retrouver sur notre site internet l'entretien que vous avez mené, Anne Fauquembert, pour prolonger donc cette enquête sociologique. Tandis que le gouvernement multiplie les messages de fermeté sur les contours du nouveau confinement, le Premier ministre a exclu hier soir donc toute nouvelle dérogation pour les petits commerces. Jean Castex juge que ce n'est certainement pas le moment de revenir sur les mesures annoncées. Seule concession toutefois dans ce bras de fer qu'il oppose au commerce, donc s'estimant victime de concurrence déloyale de la part des grandes surfaces, le Premier ministre a annoncé que ses enseignes devront fermer les rayons non essentiels, notamment disques, livres, mais aussi jouets et produits de maquillage à partir de demain. C'est ainsi que le gouvernement Anne-Laure Jumet entend rétablir, selon lui, l'équité, sauf que cette mesure ne satisfait pas forcément, en l'occurrence, les petits commerçants.
Sortir par le haut et non par le bas, le titre du communiqué de presse publié ce matin par la CPME résume bien le sentiment du commerce de proximité. Fermer les rayons non essentiels des grandes surfaces est une réponse de court terme, estime l'organisation qui représente les petites et moyennes entreprises. Une décision qui risque en plus de favoriser les grandes plateformes numériques, à commencer par le géant américain Amazon. Sortir par le haut, selon la CPME, c'est donc ouvrir tous les commerces dans le respect des gestes barrières, quitte même, dit-elle, à renforcer les règles sanitaires en vigueur. Une option intermédiaire proposée par le Sénat pourrait être aussi une solution, estime l'organisation patronale. Il s'agit de donner au préfet le pouvoir d'autoriser localement l'ouverture des commerces jugés non essentiels. Alors Bercy annonce ce matin que des discussions vont se poursuivre toute la semaine avec les différentes fédérations pour étudier les conditions d'une éventuelle réouverture, mais ce ne sera pas avant le 12 novembre. Emmanuel Macron avait en effet indiqué mercredi dernier que la situation serait réexaminée dans 15 jours. En attendant, les commerçants sont incités à trouver des alternatives, comme la commande en ligne suivie d'une livraison en boutique, ce qu'on appelle le click and collect. Reste à faciliter l'accès au numérique des commerçants, alors que seulement une boutique sur 3 est digitalisée, un chantier pour lequel Bercy a annoncé que 100 millions d'euros du plan de relance seraient débloqués.
Alors le Premier ministre, on l'a compris, a donné une fin de non-recevoir donc aux commerçants indépendants, mais aussi aux élus locaux qui depuis plusieurs jours prennent eux des arrêtés pour les autoriser au contraire à rester ouverts. Laura Dulieu, bonjour.
Bonjour.
Autant dire Laura que les déclarations de Jean Castex hier soir n'ont pas apaisé leur colère.
Non, effectivement, difficile de quantifier précisément les maires qui ont décidé de permettre l'ouverture des petits commerces. C'est le cas à Perpignan, Dijon, Brive, Beaune, Valence, Colmar ou encore Chalon-sur-Saône. Le ministère de l'Intérieur parle ce matin d'une 40aine de communes dans ce cas-là. Ce qui est sûr, c'est que ces arrêtés sont illégaux puisqu'un décret a été pris pour fermer les commerces. Mais c'est un moyen pour les élus de maintenir la pression sur le gouvernement, selon Michel Vernier, le trésorier de l'Association des maires de France, qui précise que l'objectif est bien, je cite, de demander que cette situation soit revue parce que l'on pense qu'il n'y a pas de risque pour la santé. La colère est donc bien là, surtout après les propos de Bruno Le Maire qui a qualifié ses maires d'irresponsables ce week-end. Le secrétaire général de l'AMF, Philippe Laurent, demande au ministre de l'Économie de retirer ses propos. Traiter ainsi les maires qui sont auprès des populations, c'est une faute politique selon lui. Il reproche au gouvernement de ne pas savoir faire confiance aux élus locaux. Et enfin, l'AMF demande aussi un bilan plus rapide des mesures sanitaires. Selon son trésorier, la clause de revoyure fixée par Jean Castex 15 jours après le début du confinement est trop tardive.
Merci Laura Dulieu.
La suite du journal à 12h50 sur France Culture, c'est avec vous bien sûr Thomas Cluzel.
L'alternance serait-elle une vertu décidément bafouée en Afrique? Nouvelle illustration en Côte d'Ivoire où les premiers résultats de l'élection présidentielle organisée ce week-end donnent une avance écrasante au président sortant en quête d'un troisième mandat controversé. Alors bien sûr, depuis que l'opposition avait prôné un boycott du scrutin, estimant que la constitution empêchait le chef de l'État de se représenter, personne n'imaginait que la victoire puisse échapper à Alassane Ouattara. Reste qu'à l'instar de la Guinée voisine, également plongée dans une crise post-électorale profonde, la fragile démocratie ivoirienne se retrouve une nouvelle fois ébranlée, sans compter que dans ce pays où la réconciliation nationale lancée il y a 10 ans n'est toujours pas achevée, eh bien, le pire est peut-être à craindre. Hier déjà, les partis de l'opposition ont déploré plusieurs morts lors de manifestations qui ont émaillé le scrutin. Reportage à Abidjan, signé de notre envoyé spécial Omar Waman.
Nous ne sommes qu'au début d'une deuxième phase de la lutte.
Jusqu'où ira l'opposition ivoirienne dans son bras de fer avec le président Alassane Ouattara? La presse locale et internationale a eu quelques éléments de réponse au lendemain de l'élection. Alors que le dépouillement n'est pas encore achevé, la victoire du président sortant ne fait aucun doute. Le porte-parole de l'opposition, Pascal Affi Nguessan, rejette ce qu'il a toujours qualifié de coup d'état électoral.
Les partis et groupements politiques de l'opposition ne reconnaissent pas l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, appellent à l'ouverture d'une transition civile afin de créer les conditions d'une élection présidentielle juste, transparente et inclusive.
Bureau de vote saccagé, route coupée, matériel électoral bloqué, heurts avec la police, le scrutin a été émaillé par de nombreux incidents qui se sont produits en majorité dans des bastions de l'opposition qui accuse le pouvoir ivoirien d'irrégularité.
La suppression irrégulière de nombreux lieux de vote, le faible taux de participation à moins de 10% de l'électorat, les morts d'hommes, au moins une trentaine de personnes, soit au total près de 110 morts depuis l'annonce de la candidature anticonstitutionnelle et illégal du président sortant Alassane Ouattara.
Des chiffres invérifiables à ce stade. Quant au gouvernement, il n'a donné aucun bilan officiel.
Alassane Ouattara, 99,33%.
Dans la soirée, la commission électorale indépendante a commencé à donner les premiers résultats. Il laisse entrevoir une victoire sans surprise d'Alassane Ouattara. Le seul enjeu de ce scrutin sera le taux de participation. Il indiquera dans quelle mesure l'appel au boycott de l'opposition a été suivi par la population.
Un reportage à Abidjan signé Omar Waman et Gilles Gallinaro pour les moyens techniques. Comme si l'histoire bégayait, appelait hier à entériner une révision constitutionnelle censée fonder une nouvelle république, les Algériens ont massivement boudé les urnes avec un taux de participation de 23,7%, un plus bas historique pour un scrutin majeur. Cette campagne voulue par le président Tebboune se sera achevée comme elle avait commencé, comprenez, sans engouement populaire. Alors là encore, la victoire du oui ne faisait guère de doute après que les opposants qui n'ont pas été autorisés à tenir de meetings publics avaient prôné le boycott, preuve que la politique de la chaise vide est aussi sans issue. Pour autant, ce silence électoral constitue bien évidemment un revers cinglant, sinon humiliant pour le régime en place, mais il témoigne aussi et surtout de ce qu'en quelques mois seulement, les faibles espoirs soulevés par le départ du président Bouteflika se seront en grande partie évaporés. À la veille de l'élection présidentielle, c'est dans une Amérique à fleur de peau, mais aussi dans le contexte anxiogène d'une épidémie de coronavirus en pleine recrudescence, que Donald Trump a choisi de jeter ses dernières forces dans la bataille avec l'espoir de faire mentir les sondages qui placent toujours son rival Joe Biden en position de favori, sans compter que singularité du système américain oblige, ce sont les grands électeurs et non le vote populaire qui font l'élection, d'où les appels à la prudence de nombreux observateurs qui pointent pour exemple le scrutin de 2016 où Donald Trump, bien qu'ayant recueilli près de 3 millions de voix de moins qu'Hillary Clinton, avait été élu, créant ainsi l'une des plus grandes surprises de l'histoire politique américaine. En Moldavie, ex-république soviétique riche, entre la Roumanie et l'Ukraine, mais aussi pays parmi les plus pauvres justement d'Europe, les électeurs étaient appelés aux urnes hier et avec un peu moins de 36% des voix, c'est la candidate pro-européenne qui a créé la surprise en devançant d'une très courte tête le président sortant pro-russe. Des résultats qui laissent présager donc un second tour serré le 15 novembre prochain. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par une nouvelle perturbation pluvieuse qui circulera sur le nord et l'ouest du pays. Partout ailleurs, le soleil fera de belles apparitions même si le ciel se chargera progressivement de passages nuageux avec localement quelques gouttes de pluie. Quant aux températures, elles afficheront entre 16 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Brice Garcia. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.